Par actualité. Bonjour à vous toutes et vous tous. Nous sommes le 21 décembre et c'est Clotilde Sey qui vous accompagne pour cette émission. Cette émission est consacrée au Par Actualité avec des titres du jour. Hausse des appels de détresse pendant les fêtes. Des parents d'enfants autistes et des intervenants auprès d'eux lancent un cri du cœur. Dans une polyvalente à Rimouski, une salle de motricité qui est destinée aux élèves handicapés. Et puis à Alma, le nouveau centre d'audio et audioprothésiste ouvre ses portes. En Ontario, pas de remboursement santé pour un adolescent qui allait devenir aveugle. Et en Côte d'Ivoire, un refuge pour les enfants maudits. Deux entrevues encore aujourd'hui avec Annick Lavaugier, coordonnatrice de projet à la Fédération québécoise de l'autisme, et Marie-Ève Veilleux, activiste pour les droits des personnes handicapées. Alors que la saison des fêtes s'installe, des statistiques de jeunesse, j'écoute, révèlent qu'entre Noël et Jour de l'An, le nombre d'appels de crise reçus par l'organisme augmente de 23%. En effet, pour de nombreux jeunes, notamment ceux qui vivent des situations d'abus, de la dépression ou qui sont aux prises avec des pensées suicidaires, le temps des fêtes peut être une période particulièrement difficile au cours de laquelle le besoin d'avoir un accès immédiat, peu importe l'heure, à des services qui pourrait leur sauver la vie, se fait sentir de façon encore plus intense. Tous les jours, Jeunesse J'écoute reçoit en moyenne 48 appels de jeunes de partout au Québec. Une augmentation des appels de jeunes en situation de crise ou de détresse signifie qu'un nombre encore plus élevé de jeunes révéleront des cas d'abus, d'automutilation ou des plans élaborés en lien avec le suicide. Les données de Jeunesse J'écoute montrent en outre que un adolescent sur cinq au Canada affirme avoir sérieusement songé au suicide au cours des 12 derniers mois. 50% d'entre eux avaient même formulé un plan. Le suicide et les pensées suicidaires comptent pour 8% de l'ensemble des séances de consultation fournies par Jeunesse J'écoute. 11% des jeunes au pays disent avoir subi de la violence à la maison ou à l'école et 28% de l'ensemble des séances de consultation sont liées à la santé mentale et émotive. Des parents d'enfants autistes et des intervenants auprès d'eux lancent un cri du cœur. Ils demandent à Québec d'injecter 10 fois plus d'argent pour offrir des services à cette clientèle vulnérable. Au Québec, une personne sur 68 est atteinte d'un trouble du spectre de l'autisme. De l'enfant jusqu'à l'âge adulte, les besoins changent et les services ne sont pas toujours adaptés. Il y a des enfants qui vont attendre jusqu'à 2 ans pour avoir un diagnostic. Après ça, ils vont attendre encore 2 autres années des fois pour recevoir des services post-diagnostiques et souvent l'enfant va avoir 6 ans et ils ne sont plus éligibles pour des services précoces, déplore Malvina Clagg, qui est présidente du Centre d'innovation pour l'autisme dans son dernier budget. Le gouvernement de Philippe Couillard s'était engagé à augmenter de 5 millions de dollars les sommes pour les services liés à l'autisme. Eh bien, l'autisme, continuons à en parler dès maintenant, dans quelques secondes. Plutôt avec Annick Lavaugier. Bonjour Madame Lavaugier.
Bonjour.
Vous êtes coordonnatrice de projet à la Fédération québécoise de l'autisme. Vous venez sans doute d'entendre cette nouvelle de personnes qui sont encore beaucoup de soucis. Hein,
oui.
On a besoin d'aide. Hein. J'imagine que c'est encore de cela dont il sera question aujourd'hui. C'est encore un gros dossier, ça.
Oui, exactement. Bon. Exactement. Hein? L'initiative dont vous parliez tantôt, de la Fondation Myriam, ça fait déjà quelque temps que c'est en route. La Fédération a déjà fait les lettres aux différents ministres pour encourager à augmenter l'investissement de 5 millions promis. Parce qu'effectivement, suite notamment au forum qui a eu lieu en février cette année, qui a permis d'établir 10 priorités parmi toutes les priorités pour toutes les classes d'âge de toutes les personnes autistes au Québec, Pour répondre à ces priorités, effectivement, 5 millions ne nous paraissent pas suffisants, étant donné qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, comme vous l'avez souligné, il n'y a déjà pas assez de moyens mis en place pour répondre aux besoins actuels, donc encore moins d'argent pour développer pour les nouvelles priorités.
Annick Lavaugier, 2016 touche à sa fin. Si on devait faire un petit résumé des gros dossiers que vous avez eu à gérer cette année, quels seraient ces dossiers?
Alors c'est sûr que nous à la Fédération, on a commencé l'année tout en festivité, en fêtant nos 40 ans.
Oui.
Au même moment avait lieu le Forum québécois de l'autisme dont je viens de vous parler.
Oui.
Plusieurs priorités ont été dégagées. Je vais citer notamment un accès plus facile et rapide à l'évaluation diagnostique pour tous les groupes d'âge, incluant les adultes donc. Une diversification de l'offre de services spécialisés. Et une gamme variée de services pour les adultes en fonction de leurs besoins et de leurs projets de vie. Ça, c'est trois priorités pour lesquelles on se bat toute l'année, ces trois gros dossiers, mettons.
Oui.
C'est sûr qu'à l'issue de cet événement, un plan d'action et un investissement financier ont été annoncés par la ministre Charlebois d'ici 2017, qu'on attend. Les appels de parents désespérés qui ne savent plus où s'adresser pour obtenir aide et services ne cessent d'augmenter. Donc, les suites du forum seront attendues avec d'autant plus d'impatience par la fédération comme par les parents et les associations régionales. Sur le plan scolaire, nous avons participé à la consultation sur la réussite éducative qui a eu lieu un peu plus tôt à l'automne, et on a rappelé à plusieurs reprises l'importance de l'intégration des élèves ayant des besoins particuliers dans les milieux scolaires. C'est sûr que ça doit être fait en respectant plusieurs conditions essentielles, une vision commune de l'intégration partagée par l'ensemble de l'équipe, une adaptation de l'enseignement, des outils d'apprentissage, la formation des enseignants, etc.
Bien sûr.
Sur le plan des besoins des personnes adultes, nous avons qui est toujours criant. Nous avons, entre autres, fait une campagne de sensibilisation auprès des employeurs pendant le mois de l'autisme, en avril dernier. Puis nous avons continué à participer à un programme qui s'appelle Prêt disponible et capable, qui soutient les employeurs partout au Québec qui souhaitent embaucher des personnes autistes. C'est un gros programme. Et par ailleurs, un autre gros dossier de l'année 2016, un peu comme chaque année malheureusement, c'est le soutien aux familles qui a été une de nos priorités, une fois de plus. Nous, on a fait plusieurs, à la Fédération, il y a eu plusieurs partenariats avec des entreprises d'une grande générosité qui nous ont permis d'offrir du répit et de la formation à des familles dans toutes les régions du Québec par le biais des associations régionales. Fait que ça, c'est un peu un survol de tous les gros dossiers.
Grosse année, hein?
Oui, c'est ça.
Un très grosse année.
Professionnel, du soutien aux familles.
Oui. Bon, et puis, un autre sujet qui fâche, comme si on avait besoin de ça. On parle d'intimidation.
Oui.
Envers des personnes autistes. Et est-ce que c'est un problème grandissant? C'est quelque chose, ou alors c'est quelque chose dont on ne parlait peut-être pas assez, tout d'un coup on le découvre?
C'est sûr que présentement, on parle beaucoup plus de l'intimidation qu'il y a quelques années, de manière générale, pas uniquement pour les personnes autistes.
Non, c'est ça.
C'est sûr que depuis les dernières années, il y a quelques études qui se font sur l'intimidation et aussi l'intimidation des personnes autistes.
Bon, et vous préparez un guide en ce moment.
C'est ça, exactement. Dans le cadre du programme de soutien financier Ensemble contre l'intimidation du gouvernement, on a reçu une subvention qui va nous permettre de créer un guide et qui sera accompagné d'une vidéo et qui sera intitulée « Développer les habiletés des personnes autistes dans un contexte d'intimidation ». Notre objectif, là, c'est vraiment de s'adresser aux personnes autistes et à leur entourage, les parents puis les professionnels, pour leur offrir des outils concrets pour apprendre à gérer l'intimidation. Donc, avoir des outils, comment y survivre, comment la comprendre, comment y faire face, comment la gérer dans différents types de contextes, la reconnaître, etc. Fait que notre objectif, c'est vraiment d'offrir des outils concrets aux familles et aux professionnels.
Alors, ce guide-là, il sera prêt quand, Madame Lavaugier?
Nous allons le diffuser à partir du mois d'avril.
Oui.
Et nous allons pouvoir le diffuser dans des copies papier gratuites, disponibles dans les associations régionales ainsi qu'au bureau de la Fédération.
D'accord.
Et nous allons aussi le mettre également une version PDF en ligne téléchargeable gratuitement sur notre site.
Donc sur le site du FQA, Fédération québécoise de l'autisme,
exactement,
c'est bien ça.
Exactement.
Et pour ce guide-là, si je ne m'abuse, vous êtes à la recherche de témoignages. Hein. Alors comment peut-on faire? On vous les fait parvenir également à la FQA?
Oui, exactement. Vous pouvez envoyer votre texte ou si vous avez des questions à direction@autisme.qc.ca. Il s'agit en fait de nous faire parvenir des courts textes entre 10 et 20 lignes qui décrivent une situation où la personne autiste a vécu de l'intimidation, comment elle a réagi et qui autour de lui ou d'elle a pu la soutenir, ainsi quelles sont les solutions qui ont été faites par la suite.
C'est pas beaucoup, hein, 10, 20 lignes.
Non, mais c'est sûr que si c'est plus long, on verra, mais c'est sûr que c'est un peu pour donner des aperçus des différentes situations. D'accord. Et en fait, ces témoignages seront utilisés dans notre magazine scientifique L'Express, qui sortira en avril au même moment que le guide, parce qu'on y fait un dossier sur l'intimidation qui nous permettra également de présenter notre guide, etc. Fait qu'on aura aussi des spécialistes qui vont en parler.
Eh bien, merci infiniment, Annick Lavaugier, pour toutes ces nouvelles-là. Et on va se tenir au courant, bien sûr.
Merci beaucoup à vous.
Mais je vous en prie, passez une belle fin de journée. Par actualité régionale, une salle de motricité destinée aux personnes handicapées. L'école polyvalente Paul Hubert à Rimouski inaugure une salle de motricité destinée aux élèves handicapés. La salle a pour but d'améliorer l'équilibre et de développer la force musculaire des personnes handicapées qui la fréquenteront. Selon l'un des instigateurs du projet, Bernard Duchesne, ces installations spécialisées permettront aux personnes vivant avec un handicap de profiter des bienfaits de l'activité physique dans un environnement adapté à leurs besoins. Ce sont des jeunes qui ont besoin de bouger autant que les jeunes du régulier. Ils ont besoin d'être stimulés, mais autrement. Une salle de motricité peut permettre ça, ce qui n'est pas le cas dans un gymnase. De nous dire Bernard Duchesne, éducateur physique. Ce projet, évalué à 7 000 $, a été réalisé grâce à la contribution financière d'Hydro-Québec. Et environ 70 élèves auront accès à ces équipements spécialisés qui pourront aussi être utilisés par des élèves du primaire et la ressource d'aide aux personnes handicapées. Un nouveau centre d'audiologie et d'audioprothèse ouvre ses portes à Alma. C'est un texte de France Paradis qui nous dit que les travaux amorcés en juillet dernier sont maintenant complétés. L'entreprise La Liberté d'Entendre, audioprothésiste et la clinique d'audiologie du Lac du Fjord ouvrent ce vendredi à Alma dans la même bâtisse, une succursale au 1705 de l'avenue du Pont Sud. La nouvelle clinique offrira donc les services d'audiologie et d'audioprothèse, alors que le centre La Liberté d'Entendre de Saguenay et la clinique d'audiologie du Lac au Fjord travaillent conjointement depuis plusieurs années déjà et veulent poursuivre leur travail complémentaire en occupant le même bâtiment. En juillet dernier, les propriétaires confiaient à TC Média que l'entreprise songeait à cet investissement depuis un certain temps, car les études ont démontré qu'il y avait un manque de services à Alma dans ce domaine. La surdité, ce n'est pas juste les personnes âgées. Dans notre secteur, il y a beaucoup de milieux industriels. Les gens manquent d'informations et de ressources en matière de santé auditive. Cette ouverture est le fruit d'un investissement majeur qui profitera à un ensemble de fournisseurs œuvrant au sein même de la municipalité. La création de nouveaux postes et l'ouverture d'un point de service rassembleur et spécialisé sont la preuve du développement efficace et sain de notre équipe, souligne conjointement Steve Laliberté, audioprothésiste et copropriétaire, ainsi qu'Isabelle Côté, audiologiste et propriétaire. Alors, un Canada accessible n'est pas possible sans un Québec accessible. Et pour nous en parler, j'ai le plaisir de retrouver Marie-Ève Veilleux, activiste pour les droits des personnes handicapées. Bonjour Marie-Ève.
Bonjour.
Alors, ce titre-là, un Canada accessible n'est pas possible sans un Québec accessible. Vous n'allez pas démentir ça, hein?
Non, évidemment pas.
Bon, alors donc, qu'est-ce qu'un Canada accessible pour vous? C'est la question posée par le gouvernement fédéral dans le cadre des consultations portant sur la future loi fédérale sur l'accessibilité. Qu'est-ce qu'a répondu Québec accessible?
Donc, on est allé, on a participé justement à ces consultations-là. Oui. On était à Québec, à Montréal, à Ottawa.
C'était en novembre, hein?
En novembre, exactement, début décembre aussi.
D'accord, OK. Alors, donc, vous y étiez. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est dit?
Ben c'est sûr que on a pu entendre des personnes, des groupes partager leurs revendications, mm-hmm. leurs obstacles. Il y avait beaucoup, on entendait beaucoup des trucs qui avaient rapport aux compétences provinciales, mm-hmm. Mm-hmm. alors que malheureusement la loi fédérale ne va pas toucher directement aux choses qui appartiennent aux compétences provinciales. Donc, c'est pour ça qu'on s'est dit qu'un Canada accessible, ça serait pas possible sans que le Québec devienne plus accessible aussi.
Alors, quels sont les sujets principaux qui ont été abordés? J'imagine qu'on a parlé d'emploi, par exemple, mm-hmm. et de discrimination, entre autres.
Absolument, d'emploi, de transport, évidemment, par les trains, ouais. par les postes, tout le dossier de Postes Canada. On a une personne de Québec accessible, Mélanie Bénard, a été parlée aussi de la loi, par exemple, sur l'immigration qui discrimine
ah oui.
les personnes handicapées qui peuvent pas immigrer au Canada parce que c'est un fardeau.
Oui.
Mmh. Oui, c'est considéré. Donc à tous les niveaux compétences fédérales
oui,
ont
oui.
été touchés.
Ouais. J'ai entendu parler aussi de reconnaissance des langues signées, hein, LSQ et ASL, donc côté anglais et côté québécois, français.
Absolument, c'est un enjeu qui est quand même central, l'accessibilité communicationnelle aussi, le CRTC qui a besoin d'avoir une plus grande portée pour que les émissions soient sous-titrées aussi exactement.
Mm-hmm. Oui. Et puis le manque de services pour les personnes handicapées, toujours, hein, et leurs familles.
Hein? Oui, absolument, c'est criant, les services sont coupés à gauche et à droite, donc... Ouais.
Et puis, les différences entre les villes et que dire, d'ailleurs, entre les régions, entre les provinces, on n'a pas les mêmes services, hein, Marie-Ève?
Non, c'est ça. Donc, on espère que la loi fédérale va entraîner justement les provinces à emboîter le pas, mm-hmm. justement pour qu'il y ait moins de différences qu'on habite en Ontario, qu'on habite au Québec ou qu'on habite dans une grande ville ou dans une plus petite ville.
Mm-hmm. Comment ça se passe pour nous au Québec? Est-ce qu'on fait partie de ceux qui s'en sortent le mieux ou au contraire, est-ce que c'est l'une des pires provinces?
Ben, on est assez en retard, je dirais, sur des provinces, par exemple, comme l'Ontario.
Ah oui?
Qui a adopté en 2005 une loi assez, beaucoup plus mordante que la loi qu'on a au Québec.
Mm-hmm.
Et qui permet de voir des changements beaucoup plus rapidement que ce qu'on
mm-hmm.
a ici.
Mm-hmm. Bon, alors, les dossiers chauds à suivre pour 2017, pour Québec accessible.
Oui, c'est sûr qu'on va suivre justement le développement de cette loi canadienne.
Oui.
Puis le gouvernement fédéral a aussi annoncé qu'il allait amorcer la procédure d'adhésion au protocole facultatif de la Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations Unies. Mmh. Donc, ça va donner un levier supplémentaire pour faire respecter nos droits. Du côté du Québec, ben, à Québec Accessible, on va continuer de suivre l'actualité, commenter les dossiers liés à notre mission. Mmh. Mais on veut aussi continuer de mobiliser les gens et le milieu pour préparer à revendiquer une loi québécoise aux prochaines élections.
Est-ce que la ministre Qualtrough était là quand vous vous êtes déplacée à Québec, Montréal, Ottawa?
À Québec et Montréal, non. Je suis pas certaine qu'elle était là. Je pense qu'elle était là à Ottawa, mais je suis pas certaine.
OK, d'accord. Donc, vous n'avez pas pu la côtoyer directement parce que je vous aurais demandé ce que vous en pensez, quoi. Vous-même, en tant que personne handicapée, et elle-même aussi, en tant que personne handicapée visuelle. Pour ça, j'aurais été curieuse de savoir ce que vous en pensez. Remarquez, même si vous ne l'avez jamais côtoyée, est-ce que vous trouvez ça rassurant que ce soit une personne handicapée qui soit nommée à ce ministère?
Absolument, oui. Ben, le fait d'avoir un ministère pour les personnes handicapées,
déjà,
on voit déjà les retombées qui sont concrètes. Et donc, on est très content que ça existe, que ça soit reconnu comme un enjeu important pour le gouvernement fédéral. Ça serait excellent si on avait la même chose au provincial.
Exactement. Il nous reste une petite minute, Marie-Ève. Vous êtes activiste depuis déjà pas mal de temps, hein?
Oui, ça fait plus que 6-7 ans, je dirais. Ouais.
Bon, et la motivation est toujours là?
Absolument, oui. Ben, quand on vit de la discrimination tous les jours, on peut pas s'empêcher de vouloir que la société change.
Mais oui. Et vous en vivez encore tous les jours vous-même?
Absolument, oui. Oui. Des endroits où je peux pas entrer, des endroits...
Ben oui.
La neige, ces temps-ci, c'est un peu...
C'est difficile, hein, surtout quand ça devient slosheux comme ces jours-ci, là.
Exactement.
Bon, bah écoutez, Marie-Ève, on vous remercie beaucoup une nouvelle fois d'avoir participé à notre émission. C'est toujours bien intéressant de vous entendre. Et comme vous l'avez dit très justement, bah en 2017, on va suivre les événements et ces dossiers chauds de l'actualité en espérant que cette ministre tienne ses paroles et que ça fasse avancer plus que le débat et qu'on trouve des solutions, quoi.
Hein? Exactement, oui.
Alors, merci beaucoup, Marie-Ève, et puis bonjour à Laurence, parents, tout ça, lorsque vous la verrez. D'accord?
Parfait, merci.
Allez, au revoir, bonne journée. Par actualité nationale maintenant, le programme d'assurance santé de l'Ontario, l'OHIP, O-H-I-P, a refusé de payer pour une opération qui devait sauver le jeune Aidan Wellsman de la cécité, une intervention qui est remboursée dans d'autres provinces. Le jeune homme souffre de kératocone, qui est une anomalie dégénérative qui touche la cornée. Il s'est fait dire par les médecins qu'il perdrait la vue s'il ne traitait pas rapidement la maladie. Sa maman, Flora, de dire « j'étais terrifiée, en pleurs, paniquée, tout ce que j'entendais, c'est que mon fils allait devenir aveugle ». Les ophtalmologues ont expliqué à Aidan Wellsman et à sa famille que deux chirurgies pourraient prévenir la cécité. La réticulation du collagène cornéen, ça c'est pour renforcer la cornée affaiblie par la maladie, et l'installation d'arceaux de plastique appelés « intac ». Le père de l'adolescent, Thomas Wellsman, a été stupéfait d'apprendre que la province ne paierait pas pour les opérations. Pour bien des gens, ce serait hors de prix, constate-t-il. Il s'agit de 10 000 $ à débourser pour sauver la vue d'une personne. Si elle la perd, le gouvernement va devoir débourser bien plus en frais de prestation d'invalidité. De dire encore la maman d'Aidan, Flora Wellsman. Aidan, qui a finalement été soigné à Toronto la semaine dernière, notamment grâce à une campagne de financement participatif en ligne GoFundMe, les parents de l'adolescent ont écrit à la première ministre Kathleen Wynne pour lui demander de changer la politique de la province. Le ministère de la Santé affirme qu'il attend les résultats de recherche sur cette procédure avant de décider si l'assurance maladie la couvrira dans l'avenir. L'opération chirurgicale est notamment remboursée au Québec et en Colombie-Britannique. C'est un papier que j'ai trouvé pour vous d'après les informations de Mike Crawley. Par actualité internationale, nous allons en Côte d'Ivoire où on fait connaissance avec un refuge pour les enfants qu'on appelle les enfants maudits. Par exemple, Gérard, 8 ans. Un regard jovial et innocent, des petits cheveux coupés ras qui mangent tranquillement dans la cantine de la maison collective. Gérard est un miraculé. À sa naissance, la tradition l'avait condamné à mort. Sa mère étant décédée en l'enfantant, il était promis à la noyade, car il en va ainsi, au sein de l'ethnie Tagbana, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Depuis 2011, une maison baptisée Centre d'accueil et de transit Sainte-Geneviève recueille dans la petite ville de Katiola ses enfants condamnés à mort par la coutume en cours dans cette région, mais aussi ailleurs en Côte d'Ivoire. Créé par l'abbé Germain Koulibaly Kalari, 54 ans, ce centre, financé par des dons, héberge aujourd'hui 17 jeunes pensionnaires âgés de 3 à 14 ans, dont 2 sont séropositifs. Gérard a été le premier enfant sauvé. Il a échappé de justesse à la mort grâce à des sages-femmes qui l'ont confié à la famille du prêtre. Quant aux enfants nés avec un handicap, quand on remarque que l'enfant est touché par un handicap et qu'il ne guérira pas, c'est dans l'eau du bain qu'il est noyé, indique le prêtre ivoirien. « Ça me fait froid dans le dos chaque fois que je pense à ça », lâche-t-il d'une petite voix. Parfois, les enfants vivent quelques années sans qu'on se rende compte de leur handicap. Puis quand il s'avère qu'ils ne peuvent pas parler ou marcher, ils sont promis à la mort et des produits toxiques sont même parfois utilisés pour les éliminer. Mais dans tous les cas, jamais le terme « tuer » n'est évoqué. La formule consacrée à dire consiste à dire « on a raccompagné l'enfant chez ses vrais parents ». Les génies, c'est-à-dire des êtres surnaturels, affirme Céline, la quarantaine, qui vend des produits vivriers au marché de Katiola. « Vous n'allez pas trouver de personnes handicapées dans notre région », assure l'abbé Kalari, qui n'hésite pas à profiter de ses prêches pour appeler à mettre fin à ces pratiques. Pour le sociologue Vincent Morifet, le rejet peut s'expliquer par la stigmatisation que suscitent ces enfants dans une société où l'on n'a pas encore une connaissance réelle des handicaps. Ça va être difficile pour nos parents de renoncer à cette pratique-là, estime Habiba Koné, responsable du centre depuis 5 ans, en couvant les enfants présents du regard. Si tu as un enfant handicapé, il faut s'en occuper alors que tu dois aller au champ, souligne-t-elle. Mais comme les parents trouvent que c'est une perte de temps, ils préfèrent éliminer l'enfant. Aujourd'hui, l'étape la plus redoutée pour le prêtre, c'est lorsqu'à 15 ans, les enfants doivent quitter le centre parce qu'on considère alors qu'ils sont capables de s'assumer et parce qu'une ministre avait recommandé d'agir ainsi. Ceux qui retournent dans leur famille sont rejetés, affamés. Or, nous ne pouvons pas les garder quand ils ont 15 ans, s'attriste le prêtre. Alors, quelques nouvelles en rafale. Parlons des services de transport adaptés pour fêter en grand le début des célébrations du 375e anniversaire de Montréal. Le transport adapté sera ouvert toute la nuit du 31 décembre au 1er janvier. Mais attention, pour en profiter, réservez vos déplacements au moins 24 heures. À l'avance. Et puis un rappel ici, à partir du dimanche 25 décembre, tous les horaires réguliers sont annulés jusqu'au lundi 2 janvier inclusivement, sauf pour les clients qui sont en hémodialyse avec des déplacements réguliers. Puisqu'on est dans le transport adapté, avis aussi à la clientèle du transport adapté du réseau de transport de Longueuil, RTL, donc. Pour la période des fêtes 2016-2017, le réseau de transport de Longueuil nous informe que, comme à Montréal, tous les déplacements réguliers seront annulés du 25 décembre 2016 au 2 janvier 2017 inclusivement. Pour vous déplacer entre le 25 décembre 2016 et le 2 janvier, vous devez donc faire une demande de déplacement occasionnel. Les Canadiens ont procédé à la 52e visite annuelle des hôpitaux pour enfants, nous dit Joanie Godin dans le journal des Canadiens. Les Canadiens qui ont poursuivi leur tradition du temps des fêtes avec leur 52e visite annuelle dans les hôpitaux pour enfants de Montréal. Les joueurs ont fait un tour à l'hôpital Sainte-Justine, à l'hôpital de Montréal pour enfants, ainsi qu'à l'hôpital Shriners pour enfants. Et puis le regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain tient à vous informer que le service d'aide bénévole sera fermé durant la période des fêtes, soit du 23 décembre 2016 à compter de midi jusqu'au 16 janvier 2017 inclusivement. Le service reprendra donc à compter du 17 janvier à partir de 8 heures. Et enfin, un message du comptoir des ventes de l'INLB. Durant la période des fêtes, le comptoir sera fermé du 26 décembre au 3 janvier 2017. Nous serons heureux de vous accueillir à nouveau à compter du 4 janvier 2017. Voilà, ainsi s'achèvent les paractualités du jour en ce 21 décembre 2016. Merci à toute mon équipe, Martin Forgue et Jean-Sébastien Laliberté. Merci à vous d'être là. Je vous souhaite une belle journée à notre antenne, donc sur les ondes de Canal M. C'était Clotilde Seille qui vous donne rendez-vous demain à 11h30. Bonne journée.